Avant de commencer la prédication, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse qui est nécessaire. Il y a 2 semaines de ça, j'ai prêché. Dimanche dernier, nous n'étions pas là avec mon épouse, nous étions en famille en Lorraine. Et j'ai tenu des propos qui ont pu être interprétés de la mauvaise manière. En tout cas, on m'en a tenu informé après celle-ci. Et donc, je tiens à... avant de démarrer la prédication, à revenir un petit peu dessus pour clarifier les choses. Sur une interprétation un peu tirée par les cheveux, on a pu comprendre que que je pouvais laisser passer un mariage qui comprendrait une personne chrétienne avec une personne qui n'est pas chrétienne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vais être très clair sur le sujet. Je crois que la Bible nous enseigne que nous ne devons pas faire ainsi. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à venir me voir à l'issue du culte, mais je veux que ce soit bien clair et ne pas laisser cours à des interprétations un peu farfelues. Voilà. Je ferme maintenant la parenthèse et je commence ma prédication. J'ai intitulé le message aujourd'hui « Un pour tous, tous pour un ». Alors ça vous fait sûrement penser à D'Artagnan et à ses comparses, mais pas le nôtre, hein. Parce qu'il y en a un dans l'église, je crois. Mais vous allez comprendre la suite. Et aujourd'hui, on va lire l'intégralité d'un chapitre. Le chapitre 24. Alors, cette semaine, si vous n'étiez pas trop déconnecté de l'actualité en France, nous avons commémoré un triste épisode, les attentats du 13 novembre 2015. Alors, peut-être vous vous souvenez de ce que vous faisiez. Moi, j'étais dans ma chambre à l'Institut biblique de Nogent et beaucoup de gens ont commencé à m'appeler « Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu étais sur Paris ?» Moi, j'étais au courant de rien puisque quand on fait des études de théologie, c'est bien connu qu'on a la tête comme ça. Et puis, et donc, j'ai compris qu'il se tramait quelque chose de grave. Et en écoutant des retours à la radio, certains journalistes se rappelaient et estimaient « Waouh, on trouvait que la guerre était arrivée dans Paris ». Il y avait l'armée qui avait été mobilisée, des policiers de partout, etc., etc. Et ça nous rappelle que nous vivons dans un contexte un peu particulier dans notre monde, avec des questions inquiétantes qui se posent et qui s'invitent dans le débat public. Est-ce que notre monde est à un tournant? Est-ce qu'il est en train de changer? Devons-nous craindre, disons-le, une guerre militaire à plus grande échelle dans laquelle la France pourrait être impliquée? Quels sont les intérêts en jeu et qui en tirerait avantage? Les discours dans le débat ne sont pas vraiment rassurants et les interventions politiques contribuent à l'ambiance oppressante dans laquelle nous sommes désormais installés depuis un moment. Dans ces conditions, comment devons-nous nous positionner? Alors, je ne parle pas ici de positionnement politique, mais de positionnement vis-à-vis de ce monde et vis-à-vis de Dieu. Dans la Bible, nous trouvons des récits de guerre, et oui, parfois s'agissant de campagnes militaires qui sont voulues par l'Éternel, on peut penser à la conquête du pays promis, ou parfois s'agissant du peuple de Dieu subissant la guerre, on peut penser là aux nombreux sièges de Jérusalem ou aux nombreuses occupations du pays. Le texte que nous allons méditer ce matin porte sur le pouvoir d'un homme qui veut conduire son peuple à une campagne militaire. Et ce roi, c'est David, qui va commettre ici une faute importante, un recensement coupable. Alors, à partir du texte de ce matin, je nous propose 3 considérations à prendre en compte pendant une période troublée. La première considération, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain. La deuxième considération, c'est que Dieu est tout puissant. Et la troisième considération, c'est que Dieu est bon. Dieu est souverain, il est tout puissant et il est bon. Et on va voir que ces 3 considérations, elles sont importantes dans n'importe quel contexte, mais surtout dans le contexte actuel. Dieu est souverain. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Alors, il y a beaucoup de textes, du coup, ça fait petit. Mais je crois que vous avez tous une Bible en main. Ouvrez vos Bibles dans le 2e livre de Samuel, au tout dernier chapitre, le chapitre 24. 2 Samuel 24. Alors pour ceux qui le cherchent, il se trouve avant les rois et après les juges et Ruth. Ruth, c'est un tout petit livre, donc c'est difficile à trouver, mais voilà comment vous avez trouvé 1 Samuel et puis 2 Samuel. À l'origine, c'était un seul et même livre, mais nous l'avons scindé en deux. Je commence la lecture et nous allons lire au verset 10. L'Éternel se mit en colère contre les Israélites et il incita David à agir contre leurs intérêts en lui suggérant l'idée de faire le recensement d'Israël et de Juda. Alors, le roi ordonna à Joab, chef de son armée qui se trouvait près de lui: Parcours, je te prie, toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Que l'on recense le peuple pour que je sache quel en est le nombre. Joab dit au roi: Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que mon seigneur le roi puisse encore le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon seigneur le roi désire-t-il faire pareille chose? Mais le roi maintint son l'ordre donné à Joab et aux chefs de l'armée. Ils se mirent donc en route pour faire le recensement d'Israël. Ils franchirent d'abord le Jourdain et s'arrêtèrent près de Aroer, au sud de la ville qui se trouve au fond de la vallée de Gad et près de Yaézer. De là, ils passèrent dans le territoire de Galaad et dans la région de Tatim-Otchi. Ils continuèrent jusqu'à Dan-Yahad et aux environs vers Sidon. Et ils arrivèrent à la forteresse de Tyr, puis ils allèrent dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils parvinrent enfin au Négev de Juda, à Beersheba. Ils parcoururent aussi tout le pays et au bout de 9 mois et 20 jours, ils regagnèrent Jérusalem. Joab communiqua au roi le résultat du recensement du peuple. Israël comptait 800 000 hommes aptes à porter les armes et Juda 500 000. Soudain, David sentit son cœur battre parce qu'il avait ainsi recensé le peuple. Et il dit à l'Éternel: « J'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. » Et on va s'arrêter là pour le moment. Le deuxième livre de Samuel est entièrement consacré à David, depuis la mort de Saül jusqu'au déclin de David. La première partie du livre montre que l'Éternel confie son royaume pour toujours à la maison de David, et la seconde partie met cette alliance à l'épreuve. C'est dans cette section du récit de la succession de David, on va l'appeler comme ça, que le chapitre 24 apparaît comme un appendice. D'emblée, le chapitre commence par une information capitale. Dieu se met à nouveau en colère. Dieu se met à nouveau en colère. Mais la raison pour laquelle Dieu se met en colère contre Israël, elle n'est pas mentionnée. On ne sait pas quelle est la raison pour laquelle Dieu se met en colère contre Israël. Alors, la Bible d'études du Semeur propose un lien entre la colère du chapitre 24 et celle du chapitre 21. Notons que de cette conception, les péricopes ne sont pas chronologiques. Les Israélites avaient promis la vie sauve aux habitants de Gabaon par serment. Ils avaient fait le serment de leur laisser la vie sauve. Mais Saül, le roi Saül et sa famille, ils ont rompu ce serment en massacrant les Gabaonites. Et cette violation n'était pas acceptable pour l'Éternel. C'est un lien qui est tout à fait plausible. Mais je ne peux l'affirmer car le texte ne le dit pas. Alors, on va en rester au texte. L'Éternel se met en colère contre l'Israélite et la raison de cette colère, elle est forcément justifiée, même si on ne la connaît pas, pour une raison très simple. C'est que Dieu est un Dieu juste. Donc, s'il se met en colère, c'est qu'il a forcément une bonne raison, même si elle ne nous est pas mentionnée. À cause de sa colère, Dieu incite le roi David à agir contre les Israélites en lui suggérant l'idée de faire un recensement d'Israël et de Juda. Alors, ce texte de 2 Samuel 24 a un parallèle dans le premier livre des Chroniques. Vous savez que le livre des Chroniques reprend l'histoire des différents rois et la complète, ajoute des choses, etc. Et donc, le premier livre des Chroniques au chapitre 21 et le texte parallèle de celui-ci dont on trouve des informations dont le chapitre 24 de Samuel ne parle pas forcément. Et dans ce texte parallèle d'un chronique, il est écrit que c'est Satan qui incite David. Alors, qui dit vrai ? Est-ce que c'est le texte de 2 Samuel 24 ou est-ce que c'est celui d'un chronique 21 ? Je crois profondément que la parole de Dieu ne se contredit pas, mais qu'elle se complète. Dieu ne tente personne et il n'est pas responsable du mal. C'est notamment Jacques qui le développe dans son épître. En revanche, Dieu est souverain sur absolument tout. Rien n'échappe à son contrôle. Pour autant, si Dieu est souverain sur tout événement qui se produit, l'entière, et là c'est très important, l'entière responsabilité du mal revient à la créature qui le commet. On ne peut pas reprocher à Dieu sous réserve qu'il est souverain, que c'est à cause de lui qu'il y a le mal. Ça, c'est un argument très commun des gens qui ne sont pas croyants. Oui, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas les guerres. Ben oui, mais les guerres, c'est qui les fait ? C'est pas Dieu. Ce sont les hommes qui les font. Donc c'est eux qui en sont responsables. Parfois, c'est un stratagème pour se dédouaner. Hein. Ah oui, mais bon, vu que Dieu est souverain, du coup, je ne fais pas exprès. C'est de la faute de Dieu. Quel raisonnement absurde, reconnaissons-le. Si Dieu est souverain sur tout événement qui se produit, l'entière responsabilité du mal revient à la créature qui le commet, et ça c'est très important. Dieu se sert des actes responsables de ses créatures pour réaliser ses projets. C'est comme ça que la souveraineté de Dieu, elle fonctionne. Parfois, il se sert de nos erreurs. Il utilise donc l'occasion fournie par la faute de David pour punir son peuple. David va commettre une faute qui va servir Dieu pour la punition de son peuple. Autrement dit, Dieu permet à Satan de tenter le roi David. Et vous avez un autre épisode parallèle dans la Bible qui se présente sensiblement de la même manière, c'est le prologue de Job. Vous connaissez le prologue de Job ? Il y a le diable qui vient devant le trône de Dieu et qui lui dit « Ah, ton serviteur Job, là, il est tout gentil, tout sympa, mais c'est normal, il lui arrive jamais rien. C'est normal qu'il t'aime bien. Mais si tu me laisses m'occuper de lui, ah, tu vas voir, il va très vite te renier. » Dieu va accepter. Et Job ne va pas le renier. Intéressant d'ailleurs dans ce texte, mais c'est que Dieu ne va jamais donner la raison à Job de pourquoi il a permis au diable de faire ça. Ce prologue de Job illustre que des actions de Satan peuvent être permises par Dieu pour accomplir les desseins du Créateur. Mais alors, on peut alors se poser la question ici. En quoi recenser Israël et Juda est une grave faute, selon les termes de David lui-même ? Un recensement, c'est pas mauvais. On va compter les personnes. En quoi c'est mauvais de faire ça ? En fait, il faut regarder un peu de plus près pour comprendre. Tout d'abord, contrairement aux recensements précédents qui ont eu lieu dans l'histoire, que l'on trouve dans l'Écriture, le dénombrement que fait David, eh ben, il n'est pas ordonné par Dieu. Et les autres recensements, c'est Dieu qui demandait. Là, Dieu n'a pas demandé. C'est une initiative de David. Ces derniers recensements, ils avaient servi à recueillir l'argent consacré au sanctuaire, à recenser les moyens dont disposait le peuple pour combattre les combats de l'Éternel, vous verrez que c'est important, ou encore pour le partage de l'héritage promis. Voilà les recensements que Dieu avait demandés et pour quelles raisons il les avait faits. Mais alors, à quoi sert le recensement que David ordonne ici ? C'est quoi le but ? En fait, le problème, il est là. C'est la motivation de ce dénombrement qui n'est pas bonne. Car la motivation, elle est militaire. Et tous les éléments que l'on trouve dans le texte vont dans ce sens. Tout d'abord, il délègue à Joab. Et Joab, c'est pas n'importe qui. C'est le chef de son armée. Il délègue à Joab, le chef de son armée, le recensement. Deuxièmement, alors ça, il faut chercher dans un chronique, mais la tribu de Lévi, elle n'est pas recensée, elle. Tiens, c'est bizarre. Donc, ce n'est pas un recensement de tout le peuple. C'est un recensement qui est plus précis. La tribu de Lévi, pour ceux qui ne savent pas, c'est une tribu qui était mise à part pour le service de Dieu. C'était les prêtres, en fait, les Lévites. Et donc, forcément, s'ils sont prêtres, Bah, ce n'est pas eux qui partent à la guerre. C'est pour ça qu'ils ne sont pas recensés. Ceux qui cherchent, c'est 1 Chronique 21, verset 6, qui montre qu'ils étaient mis à part et donc qu'ils ne combattaient pas. Et troisième élément qui va de son sens, c'est que les hommes en dessous de 20 ans ne sont pas comptés non plus dans le recensement. Et ça, c'est 1 Chronique 27, verset 23 qui nous le dit. Donc on voit que le recensement, il est ciblé, pas sur tout le peuple, mais sur un type de personne bien précise. La question est donc maintenant, pourquoi David fait un recensement militaire ? Eh bien, on ne dénombre pas les forces du peuple si on n'a pas le projet de mener une campagne. Il n'a pas fait le recensement juste pour savoir. Il avait un projet derrière la tête. Et la faute, elle est double. Dans le monde alentour, le succès de David avait été grand. Son empire était devenu puissant, mais l'orgueil s'était immiscé dans le cœur du roi. Il veut connaître la puissance de son armée pour en tirer une gloire personnelle. Regardez à quel point il est fort. Mais pas seulement. Dans le cadre de l'Alliance, Dieu avait fixé les limites du territoire de son peuple Israël. Il avait dit jusqu'où la conquête devait aller. Or, à l'époque du chapitre 24 que nous lisons, tous les territoires alloués à Israël par le traité d'alliance ont été conquis ou assujettis. Autrement dit, il n'y a plus aucune raison d'entrer en campagne. La conquête du pays, selon les termes de l'alliance, elle est terminée. On ne va pas plus loin que les limites données par Dieu. Quel est le but que David cherche en dénombrant ses troupes ? Tout porte à croire qu'il cherche à conquérir davantage de territoires et de dépasser les limites que Dieu avait lui-même fixées. Toute ressemblance avec les événements actuels ne serait que fortuite. David est tombé dans le piège de tout grand chef de guerre. Il en veut plus. Il ne se contente pas de ce qu'il a. Il veut s'inscrire avec puissance dans les livres d'histoire, et ce, par ses propres forces. En agissant ainsi, il transgresse l'alliance. Ironiquement, Joab, si vous avez été attentif, il critique la décision du roi. Et dans le texte parallèle d'1 Chronique 21, le texte ajoute même que l'ordre du roi le répugne. Cet ordre répugne Joab. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne présente pas Joab comme quelqu'un de bien. Ce n'est pas une bonne personne. C'est un homme qui est présenté comme ne craignant pas l'Éternel. Et c'est un homme qui est présenté comme étant dénué de scrupules. Et ironiquement, c'est lui qui dit à David, « C'est pas une bonne idée ce que tu fais. » Lui qui n'est pas bon. Il dit à celui qui est décrit comme bon, « Ce que tu fais là, c'est pas bien. » Quelle ironie du texte. Pourtant, c'est bien cet homme qui reprend le roi en critiquant l'ordre qu'il lui avait donné. Même Joab semble avoir plus de raison que David. C'est dire. Malgré le retour que lui fait Joab, David maintient son ordre et Joab s'exécute. Il dénombre les hommes aptes à porter les armes. C'est pour ça que la Summer, elle ajoute « porter les armes ». Ce n'est pas n'importe quel homme, le recensement, ce sont les soldats aptes à porter les armes. Paradoxalement, le résultat ne réjouit pas le cœur du roi. On pourrait se dire « Ah, c'est pas mal, hein. j'ai une belle armée, là je peux faire de bonnes choses ». Non. Le résultat remplit le cœur du roi d'amertume. Soudain, David a comme une prise de conscience. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est l'Esprit de Dieu qui l'éclaire sur son péché. Oh, je prends conscience que là, c'était pas bon. Alors il confesse devant Dieu sa faute, sans chercher d'excuses. Oui, mais tu comprends, en fait, j'ai fait ça parce que... Non, il n'y a pas de ça. Dieu connaît son cœur, il sait tout. On ne peut pas essayer de négocier comme ça avec Dieu. Dieu sait tout. Ça sert à rien. Tu as commis une faute, point. Il demande pardon. Il reconnaît avoir agi comme un insensé, comme un homme qui ne respecte pas les commandements de Dieu. En filigrane, ce qui est intéressant, c'est que le diable, qui n'a été que l'instrument de Dieu, se révèle maintenant dans son rôle réel. Satan, ça veut dire l'accusateur en hébreu, car après avoir tenté le roi, le voilà qui l'accable. Tu devrais faire un recensement. Puis une fois qu'il fait « Ah ah !» Tu as fait la faute. Les stratégies du diable. Dans notre monde, la tentation de compter sur nos forces plutôt que sur Dieu, eh ben elle est grande, reconnaissons-le. Pourtant, qui est le souverain suprême ? Est-ce les puissants de ce monde qui disparaîtront un jour ? Ou est-ce l'Éternel, le Dieu des armées célestes, celui qui subsiste éternellement et qui a tout entre ses mains ? Les auteurs de l'Écriture l'ont bien compris. Jésus, en Matthieu 10, verset 28, dit « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux d'ajouter « Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Qui est-ce que nous devons craindre ? L'objectif de ces textes n'est pas de vous plonger dans la peur, mais de renforcer votre foi. Qui vous a racheté du péché ? N'est-ce pas l'Éternel, le Dieu des armées célestes ? Qui vous a manifesté son amour jusqu'à mourir pour vous sauver ? N'est-ce pas l'Éternel, le Dieu des armées célestes ? N'est-ce pas le Fils de Dieu ? En Romains, chapitre 8, vous connaissez ce texte très connu, hein ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Plaçons notre confiance en l'Éternel, le seul à qui rien n'échappe, qui maîtrise tout événement et qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Romains 8, 28. Deuxième considération, Dieu est tout puissant. Lisons la suite, à partir du verset 11. Quand David se leva le lendemain matin, l'Éternel s'adressa au prophète Gad, attaché à la cour de David en ces termes. « Va dire à David, voici ce que déclare l'Éternel. Je t'impose l'un des trois châtiments suivants. Choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. » Gad se rendit chez David et lui communiqua le message. Il lui dit, « Que veux-tu que je fasse venir contre toi ? Sept années de famine dans ton pays, 3 mois de déroute devant tes ennemis qui s'acharneront contre toi, ou 3 jours de peste dans ton pays. Réfléchis donc et décide, puis dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans un grand désarroi. Ah, tombons plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël, depuis ce matin-là jusqu'au terme fixé. Elle sévit de Dan à Beersheba et fit périr 70 000 personnes. L'ange allait étendre sa main sur Jérusalem pour la dévaster, mais l'Éternel ne voulut pas ce malheur et y renonça. Il ordonna à l'ange qui était en train de décimer le peuple, « Cela suffit maintenant, retire ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'air d'Orna, le Yébousien, entre ciel et terre, son épée dégainée à la main. En voyant l'ange qui frappait le peuple, David pria en disant, « Voici, c'est moi seul qui ai péché, c'est moi, le berger, qui ai commis une faute. Mais ce pauvre troupeau, qu'a-t-il fait de mal ? Frappe-moi donc plutôt, ainsi que ma famille. » Et on va s'arrêter ici, dans cette deuxième étape. Même si David a confessé sa faute et demandé pardon à Dieu, l'Éternel n'a pas abandonné sa colère contre les Israélites, ni les conditions de l'alliance entre lui et son peuple. Il propose donc à David de choisir parmi 3 châtiments. 3 années de famine, 3 mois de déroute devant ses ennemis, 3 jours de peste dans le pays. Ces 3 châtiments, ils ne sont pas choisis au hasard. En fait, ils font partie des malédictions qui étaient prédites à Israël en cas de non-respect de l'alliance entre Dieu et les Israélites. Vous trouvez cette clause-là du contrat en Deutéronome 28, versets 15 à 25. Donc en fait, désobéissance de l'alliance, application de la loi, voici, tu dois choisir entre ces 3 options. Mais comment comprendre que tout le peuple se trouve à payer pour la faute d'un seul, son roi. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste quand même ? Tout d'abord, il faut noter que Dieu a incité David à agir contre les intérêts des Israélites. Souvenez-vous le début du chapitre. En fait, ils sont tous l'objet de la colère de Dieu. Pas uniquement le roi, c'est tout le peuple qui est visé. Ensuite, il faut comprendre que l'Écriture enseigne la solidarité collective entre les membres du peuple de Dieu. Ah oui, l'Ancienne Alliance est une alliance collective, celle de Dieu avec un peuple. Par conséquent, c'est un peu, alors là j'extrapole, mais c'est un peu comme à l'armée où si un soldat de compagnie commet une erreur, et c'est toute la compagnie qui se retrouve sanctionnée. Vous avez peut-être vu ça dans des reportages, il a fait une erreur, tout le monde va pomper. Voilà. Le péché du roi entraîne le châtiment sur le peuple. Mais, sa repentance entraîne leur guérison. Et ça, c'est important. Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, demande à David de choisir entre trois options de durée décroissante, mais d'intensité croissante. J'ouvre ici une parenthèse. Peut-être vous avez tiqué sur quelque chose dans le texte. Vous avez remarqué que le verset 13 parle de 7 années de famine, alors que j'ai dit 3. C'est parce qu'en fait, le texte d'1 Chronique 21 dit 3, et l'ancienne version grecque parle aussi de 3 années de famine. Donc, tout porte à croire ici qu'il s'agit d'une erreur de copiste. Je ferme la parenthèse. Si la durée des calamités diminue, leur intensité, elle augmente en comparaison. Qu'est-ce que vous auriez choisi ? Ah, moi, j'aurais pas aimé être à la place du roi David, là. Qu'est-ce qu'on choisit ? David choisit de tomber entre les mains de Dieu plutôt que d'être à la merci des hommes. C'est le choix de la raison. À la différence des hommes, les compassions de Dieu sont grandes et sa justice est parfaite. Pendant la famine, les marchands font grimper le prix de façon exorbitante. Donc même par la famine, on tombe entre les mains des hommes. C'est les marchands qui vont décider des prix. Et ça va être difficile. Et pendant une déroute militaire, les ennemis font ce qu'ils veulent. Donc là encore, on tombe entre les mains des hommes. Ce sera donc le choix sur lequel les hommes n'ont pas d'emprise. Une épidémie de peste pendant 3 jours. Et elle va être particulièrement violente. Elle fait périr 70 000 personnes. Alors là, il y a une subtilité dans le texte hébreu qui est intéressante, c'est que le mot « personne », en hébreu ici, c'est le mot « ham ». Et le mot « ham », ça ne désigne pas n'importe quel type de personne. Dans les livres de Samuel, ça désigne des soldats, et non des personnes ordinaires. 70 000 soldats. Quelle ironie ! Par son recensement, David voulait évaluer sa capacité militaire et donc le degré de confiance en son armée. Dieu lui ampute une partie de celle-ci. Seul Dieu est pleinement digne de confiance. Si vous avez déjà constaté ça dans les récits de la conquête, par exemple Josué, quand c'est des guerres qui sont voulues par Dieu, il y a une victoire derrière. Et puis quand c'est Josué qui s'enflamme un peu et qui part tout seul à la conquête, il prend une déroute. En fait, la conquête, c'est Dieu qui la commande. Le vrai chef des armées, c'est lui. Seul Dieu est pleinement digne de confiance. L'Éternel manifeste ici non seulement sa souveraineté, mais aussi sa toute-puissance. Il peut détruire une armée en un rien de temps. Il peut modifier les forces de la nature à sa guise. Il peut châtier tout un peuple par une épidémie. Et oui. Pourtant, le Dieu de la Bible ne correspond pas à une divinité que les hommes ont façonnée. Lui, il est riche en bonté et il est compatissant. David a eu raison de choisir de tomber entre les mains de Dieu plutôt que de celles des hommes. Car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours, mais s'il l'afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Ce n'est pas par plaisir qu'il humilie, qu'il afflige les humains. Petite parenthèse. Quand quelqu'un nous blesse et qu'il nous demande pardon, est-ce que nous, on fait aussi preuve de compassion comme l'Éternel ? C'est dur, hein ? L'Éternel, dans sa miséricorde, ne voulut pas que l'ange qu'il avait envoyé dévaste Jérusalem. Puis il mit fin à la calamité. C'est quand je vois ce type de récit, ça me fait toujours un peu sourire, parce que je me rends compte de la puissance ici d'un ange. Un seul peut dévaster une armée. Et j'ai toujours le texte en parallèle de Roi, où c'est avec Élisée, où il y a les Israélites vont être attaqués, et puis il y a une armée d'anges qui sont en train de s'échauffer, là, de l'autre côté, là. On se dit, punaise, si un seul peut se farcir l'armée, que penser de tous les autres ? Bref, voilà. Si David prend ses responsabilités en tant que berger du peuple, il a conscience d'être coupable. Mais cette position nous rappelle qu'il est un type du roi davidique, parfait qui devait venir, un type de Jésus-Christ. Dieu est bon, c'est notre troisième considération, et lisons la fin du chapitre 24. Ce même jour, Gad se rendit auprès de David et lui ordonna, je suis au verset 18, « Monte à l'air d'Orna, le Yébousien, et dresse-y un autel à l'Éternel. » David s'y rendit comme l'Éternel le lui avait ordonné par l'intermédiaire de Gad. Orna, qui était en train de battre du blé, regarda d'en haut et vit le roi et ses ministres venir vers lui, revêtus de vêtements d'étoffe grossière. C'est les vêtements qu'on portait notamment en cas de deuil ou en cas d'humilité. Il sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et il demanda « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» David lui dit « Je viens t'acheter cette terre pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. » Orna répondit à David « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre ce qu'il jugera bon. Regarde, voici les bœufs pour l'Holocauste. Les herses et l'attelage des bœufs fourniront le bois. Ô roi, je te donne tout cela. » Puis il ajouta « Que l'Éternel, ton Dieu, accepte favorablement ton offrande. » Mais le roi lui déclara « Non, je veux te l'acheter à son prix. » Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûteraient rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Ainsi, l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et la plaie fut détournée d'Israël. Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, demande à David de se rendre à l'aire d'Orna, qui se trouve sur le mont Moria. C'est pas anodin. Le mont Moria, c'est là où Dieu avait demandé à Abraham d'offrir Isaac, son fils, en sacrifice. L'attitude de David tranche avec celle des rois de l'époque. Plutôt que de prendre le champ et les bœufs que lui propose gratuitement Orna, David décide de les payer au bon prix, car, comme il le dit, il n'offrira pas à l'Éternel, son Dieu, des holocaustes qui ne lui coûteraient rien. Mais pourquoi offrir des holocaustes et des sacrifices de communion ? En fait, l'holocauste, il permettait de s'approcher de Dieu. Et le sacrifice de communion donnait ensuite l'occasion d'un moment de communion en sa présence. Après cela, l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et la plaie fut détournée d'Israël. La colère fait place à la bénédiction. La grâce de Dieu est plus grande que sa colère. Pourtant, vous le savez, sans effusion du sang, il n'y a pas de rémission des péchés, Hébreux 2, 22. Isaac, puisqu'il y a là un parallèle fort, et la Jérusalem de David ont échappé à la mort. Mais parce qu'un jour, l'épée de la justice divine, elle s'est abattue sur le Fils de Dieu. Le sacrifice présenté par David pour lui-même et pour le peuple devait être payé de son plein prix. David s'en charge seul pour le compte de tous. Et là, normalement, vous commencez à faire le parallèle. En cela, David est un beau type du Seigneur Jésus qui a seul acquitté le salaire du péché d'un grand nombre. Jésus-Christ s'est offert comme le sacrifice qui nous donne la paix avec Dieu. Et dans le cadre de notre union à lui, nous sommes en communion avec lui. Jésus-Christ s'est offert, c'est l'Holocauste, et grâce à cela, nous sommes en communion, sacrifice de communion. Le parallèle est fort, hein ? Très fort. La faillite spirituelle Et le péché de David attire notre attention sur un plus grand fils de David, le fils de Dieu dont la personne éternelle siège sur le trône céleste. Contrairement à David, celui qui vient est parfait. Le livre de Samuel se termine par une image du futur roi dont le sacrifice pour le péché sauve tout le royaume. Pour conclure, l'actualité nous met face à une réalité difficile. Nous sommes dans un monde régi par des hommes qui n'ont pour objectif que de servir leurs intérêts et leurs désirs. Oui, le péché règne en ce monde, et cela fragilise une paix que l'on peut penser acquise pour toujours. Mais les hommes restent des hommes, et comme l'explique si bien un sage de l'Écriture, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Mais notre confiance ne doit pas reposer sur des dirigeants humains faillibles. Au contraire, nous devons la placer dans le seul qui en est pleinement digne, celui qui est souverain sur tout événement, celui qui est bien plus puissant que toutes les bombes nucléaires du monde réunies et celui qui est une bonté incommensurable. Celui que tous devraient réellement craindre, c'est l'Éternel des armées célestes, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, lui qui est au-dessus de tout. Mais par la grâce que celui qui est, qui était et qui sera, nous a manifesté en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu et nous sommes en communion avec lui. Cette paix-là, elle est réelle et éternelle. Pour la gloire de son nom. Amen.